la première table ronde, qui pour les anglophones de la salle sera peut-être un soulagement, puisque donc nous allons maintenant passer une table ronde qui sera alors pas intégralement en anglais, mais l'intervention de Nitzan Lebovic sera en anglais, et les discussions, elle se poursuivra alors dans la langue du choix de l'intervenant, mais plutôt je pense en français. So let me introduce Nitzan Lebovic, who is professor at Lehigh University in Pennsylvania. He's specialized in Holocaust studies and intellectual history, German Jewish history. And he will talk about the topic of his last book, who was published last year.
Two months ago.
Oh, okay, this year. Very okay. German Jewish time in perspective, and also homage to Sylvain Goldberg.
So first of all, I want to thank, of course, Davide and Matthias for organizing this. It's an honor. It's a great honor to be here again. The project I'm going to talk about started with a wonderful invitation I received in the summer of 2017 from Sylvie, and was the origins of the book that just came out. I feel a bit embarrassed to talk about my own project after the wide history we just heard about now, but I'll try my best to explain its relevance to what we're doing here. I want to start by referring to the origins of thinking about a German Jewish time, or the time of German Jewish thinkers. And as you heard some of the names in the last panel, people we know all too well, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Gershom Scholem, people who you all know pretty well here. And to think about that, in relation to what Sylvie is talking about in her book, Klipsedra, I'm going to refer to that a few times. And I should say that the book, and Sylvie specifically, was the inspiration for the whole way I'm framing the topic. The seminar that Sylvie invited me to do here in, then it was the spring of 2018, was following Klipsedra, an essay on the plurality of time in Judaism. And every single aspect of that book became a core or a basis for how I developed my thinking in the following book. Specifically, Sylvie's emphasis on time in Judaism, and even more specifically, not just time in Judaism, but the plurality of time based on systems of dualistic frameworks, such as she starts from talking about the calendar, right? The sun and the moon, the two cycles of the calendar, and understanding how Jewish time engages with Christian time within the European context. That is framed as a temporal, question that has to do with time, a temporal question that is always standing vis-a-vis one's notion of identity, collective identity, which Sylvie contrasts or frames as a dialectical relation to the Annus Domini, the in the year of our Lord, specifically since 70 AD, since the Jewish destruction, right, of the Second Temple. In Sylvie's mind, Sylvie's argument in that book, or one of the key arguments that again helped me frame my own thinking about the subject, she's talking about Jewish time that has to do specifically with the notion of origins, the origins of one's thinking about Judaism as a whole, but also on about time as a whole, that is the way Judaism and then Jewish and Christian culture and then Jewish, Christian and Muslim cultures really framed their notion vis-a-vis creation, creation, right? And the implementation of time, the way we think about time in history. So with history and in history at the same time. And I wanted to start with a quick quote from Clepsydra, where Sylvie is talking about, this is the quote here, Judaism, again, in relation to the source, to the origins, the story of creation, but as a form of practice, right? Judaism, she says, invented a form of temporality that is forever being reenacted by the receding of the past in the present. So again, you see the notion of origins going back all the way to the story of creation, but the hermeneutic form of thinking about the creation of the origin becomes a form of rethinking about the present or reframing the present. How do we do that? By establishing a new temporality. Judaism managed to perpetuate itself among the nations. And the reason I love this quote is that because it has all these different layers, and I hope you can attune and listen to the layers, all these layers, which I'm going to unpack just a tiny bit here in this lecture today, specifically that practice of reestablishing and reseeding the perpetuation or self-perpetuation among the nations, right? My own specific interest here is coming from that form of scholarship and seeing how that was translated. Modernism was discussed here before. Even more specifically in the 19th and 20th century German Jewish thinking, because to a large degree, and that's how I was educated by my own mentors, you know, people who came from the George Moses school, and the Chaim Yosef Yerushalmi school, so, and others, so Saul Friedlander and David Myers and others, who talked about the Wissenschaft des Judentums in the 19th century and how that re-engaged with the notion of Jewish origins, but as a historical practice. So rethinking history or historical form as a way to engage with the present and with the existence of Judaism among the nations, right? So just an example, Niels Rommel, in one of the best known works about German Jewish history, is talking about from the 19th century and onwards, Judaism has often been defined over and against other civilizations. So we're going back again to Sylvie's notion of pluralism and dialectical relationship and dialogical relationship among the nations or civilizations with respect to its conception of time. And that is not really, that was not something that was discussed, I think, until the very last generation of scholars. Usually we took history or historicism for granted. And even within that, disengaging that with a broader understanding of time. And Niels Rommel continues and says, guided by the Zeitgeist, Jewish cultural and political ambitions in Germany were geared toward temporalized concepts specifically in that context, it's Bewegungsbegriffe, such as, and then he gives examples, Zeitlage, Zeitfrage, the question of time, Zeitbetrachtung, the observation of time, Jetztzeit, those of you who know about Walter Benjamin's theory of temporality, Jetztzeit, the now time is really important there, Zeitschatten, etc., that highlight the obsession with the present time. So thinking about historical time and the way it's being practiced helps us understand how we think and how we practice history in the present moment. Time, he says, was increasingly accelerated, yeah, and hence appeared as a stormy movement, right? Stormy movements. Now, he's not talking about Benjamin specifically. We know about that image of the storm, right? The angel of history. Stefan Moses was one of the first people to really engage with it publicly. But he's thinking about the Wissenschaft des Judentums and the way the storm, right, frames how we think about the past vis-a-vis the present. I'm not going to elaborate much about my own work here because I don't think we have a lot of time, but I do want to unpack some of the key points and try to explain the stakes, why that matters to thinking about these people. And let me say the following. In my own work, and we heard a bit about today about Judaism or Jewish history as a transnational or something that crosses boundaries, right? And I'm thinking about the four thinkers. So Martin Buber, Walter Benjamin, Hannah Arendt, and Paul Celan, also Margarete Zussmann, among others who engage with all of them. And I'm thinking about them, specifically the first four, as people who are standing not just for an understanding of Jewish time, but who used the notion of Jewish time to invent, create, if you like, new disciplines. And that is something I tried here at the Col des Hautes-Études in 2018, and that the chapters were following based on the commentary I received back then. So I'll give just a few examples. Buber is considered to be one of the, if not the key figure of Jewish studies, religion studies even. Benjamin standing for critical studies. Hannah Arendt for political thought. Celan for literature. And the four of them are not only following chronologically one on top of each other, but refer to each other. Yeah. So they built upon each other's work. Celan, to go back now, Celan reads all of them, refers to all of them, and comments the marginalia. Those of you who ever go to the Celan library in Marbach would see the marginalia on the edges of the books, all these books, very often dated. And I'll say something specifically about that in a minute. Hannah Arendt, Walter Benjamin's close friend who carried the Passagenwerke, right, to the U.S. and was responsible for editing and translating Benjamin and engaged with him. And Benjamin, of course, and his relationship to Buber and his critique of Buber together with Gershom Scholem, specifically about the way Buber misunderstands, they think, time, Jewish time. And now reversing the order, Buber is talking about Jewish time as the time of Erlebnis, of experience, living experience, of Rausch, of ecstasy, of Verwirklichung, of realization, of dialogism and eschatology. Benjamin is talking about the now time, dialectics in standstill, the now, Jetzeit, right, the now of recognizability, the storm, the swamp. And one thing that Benjamin scholars to this day did not really talk about, what he calls the womb of time, a repeating image in his works from the very first, so the 1910s work to the very last, so the Passagenwerke, a concept that he adopts from Hegel and then utilizes against Hegelian understanding of historicity, because in his mind, the womb of time is exactly the point where time is created, a very notion of Jewish natality, yeah? Also echoing Arendt later's thought. But also where time is encapsulated as a practice of the present, where everything is created, yeah? So past, present, and future really meet in that context. And this is an anti-historicist, anti-Hegelian argument based on Hegelian concept. Arendt then takes natality and talks about natality following German Jewish thinkers, right? In the following way, she's talking about Walter Benjamin and Franz Kafka and Gershom Scholem and others. In 1968, she writes, following Benjamin's article about Franz Kafka, about Walter Benjamin and Franz Kafka's rebellion against their fathers, the old generation of German Jewish bourgeoisie, who were themselves following the Wissenschaft des Judentums, and says that the generation of the fathers failed to understand how assimilation failed, yeah, and for that reason, the generation of Walter Benjamin and Gershom Scholem and Franz Kafka rebelled against them, rethinking time, reconsidering how time is what she calls the insertion of man, human, into time. In that essay, she talks about Kafka and Benjamin specifically as the people who framed that way of thinking, the insertion of the human into time, which she calls homo temporalis. And that was the title of my own book then, following her way of thinking about the insertion of humanity into time. And Celan, following that, who takes these thinkers and recreates language after 1945, thinking about how each one of them is thinking about the, in German we call it the time of in-betweenness, the time that has to do with creation that is always repeating itself in the present, recreating, reseeding itself in the present, what Hannah Arendt again calls natality. Specifically, between the no longer, the time of no longer after 70 AD, after the destruction, yeah, so there is no longer a specific Jewish time that is encapsulated in a geographical national context, so the breaking of that, but also the not yet, because our essence as human beings, he thinks, or they think, he goes back and shows how each of them is utilizing that, is in the present moment between the moment of creation, our birth, and the story that would come at the end of days, which is our death, the time of our death. I'll skip Zussman for the sake of time. Give me 5 minutes when we're getting to it. I want to get back to the story of, or the time of dialogism and pluralism, very quickly giving a few examples in relation to Sylvie's understanding of the mission, we can say, of Jewish time among the nations, the receding among the nations. One of the key figures for Martin Buber's thinking about Jewish studies or religion studies, again, in general, has to do with the story of Jeremiah, the prophecy of destruction, which he translated shortly after Franz Rosenzweig's death. They started doing that together, and he finished that himself, published in 1930, 1931. In his correspondences, he talks about that translation as the key to whatever will follow, which is the complete translation of the Bible, and specifically talking about Jeremiah in the following way, in 1930-1931. And then this keeps repeating over and over in his essays. We hear Jeremiah time after time. We hear Jeremiah time after time speak to his people and king in the most direct manner when he delivers them the concise saying of God, better your ways and your affairs, and I shall allow you to dwell in this place. So first the condition, then the state of dwelling. But when those so appear to persistently resist the call, he no longer proclaims the alternative, but announces the approaching catastrophe as an unalterable doom. Yeah. Again, the schon nicht and noch nicht, the no longer and not yet, as the time of in between us that defines not only how the individual understands her own state of in-betweenness, but how the people as a collective should understand them. And with Buber, we see one of the first thinkers who rebels against the condition of assimilation, thinking this is wrong, because equality, true equality, has to do with our time of life, our time of living, Erlebnis, yeah? In 1942 and 1932, he frames that in a dialogical, so going back to 1923, to Ich und Du, I and Thou, but frames that, the dialogical situation, as the time of in-betweenness and as a political mission, yeah, political mission to the nations. in the problem of humanity, the problem of man, he says, the dialogical situation which can be adequately grasped only in an ontological way. Yeah? Ontological way meaning how we live our time on earth. And then see how he contrasts that with space. On the narrow ridge, and of course that echoes a well-known idiom from Jewish tradition, on the narrow ridge, where the I and the thou meet, there is the realm of between. What's important is not the ridge, it's not the bridge between two geographical places, but the betweenness, the notion of temporality between the beginning and the end. And then he frames it from 1932, specifically against Carl Schmitt, so Carl Schmitt's political theology, and he never names him, it's always the teacher of the law who talked about political theology, but he warns us again and again, if you follow the Schmittian way of thinking about space and time, or the sovereign, you will find yourself always, he says, inclined towards what he calls physical violence. Yeah, inclined towards physical violence. So if we really take on the ontology of time, we do the opposite of believing in geographical national definition of the collective and contrasting with a sovereign moment of decision between friend and enemy. The notion of in-betweenness is what takes that apart, yeah, breaks that. For Israel, he says there is no political sphere outside the theopolitical, theopolitische Stunde, the theopolitical hour, which is always a temporal one, not a geographical or a nationalist one. I'll just mention Benjamin because I think we don't have enough time for that, but you can maybe take a look at the notion of origin, how Benjamin is talking about origin. And for Benjamin, the notion of origin, how he talks about origin, is never in relation to the origin story we tell about a nation, yeah, which is mythical. We go back to talk about, I don't know, David's kingdom, right? In Jerusalem as a physical entity that gave the nation its essence, the opposite here occurs. What Benjamin is talking about within his understanding of the womb of time, or his understanding of the womb of time, is always a story of rhythm, and specifically multiple plural rhythms of creation and recreation that are encapsulated again within the notion of now, the now time. The story of origin, the first quote in the Mourning Play, 1925, describes that which emerges from the process of becoming and disappearance. Yeah? So it's not an origin story we go back in order to reaffirm who we are, the opposite. Story of becoming and disappearance. Its rhythm is apparent only to a dual insight, so plural and dualistic. And again, he keeps on repeating that from the very first moment to the last one. I want to move to Arendt.
Shortly, please.
Yeah.
5 minutes?
Three.
Okay. Arendt is talking about temporality is based in relationship in her, already in her dissertation in 1928 about Augustine, a work that was read, I think, mistakenly, because what she does there is really creating the very basis of her debate with Heidegger, something that goes all the way from the very first to the very last work in her life, where she positions Augustine and specifically the witness doctrine or the notion of pluralism and tolerance as a story that will bring different cultures together. In the end of her life, or in 1963, and then the end of her life, she talks about time is not a continuum, again, not from the beginning to the end, not a continuum, but a flow of uninterrupted succession. It is broken in the middle at the point where the human stands, but the human who's also created by the divine. It is this insertion, so the insertion of the human into time, which he applies to Kafka and Benjamin in 1968, but look here. It is this insertion, the beginning of a beginning, to put it in Augustinian terms, which splits up time continuum into forces, fighting with each other and acting upon men in the way Kafka describes. So Augustine and Kafka for her are the two sides that define the story of origins and the kind of end or where we are right now. I'm getting to Celan and to the conclusion. Celan in 1968 is talking about poetry, the literature, the literary moment after the catastrophe of the Holocaust. And my interpretation here contrasts with a melancholic or tragic reading of Celan. I think Celan is thinking about absence, about crisis, about catastrophe, about destruction, but also the moment of beginning coming out of that. Yeah, after another 70 AD, after another catastrophe. The poem ceaselessly calls and holds itself back from its already no longer into its yet still in order to go on. Poetry is never timeless, but rather a type of language that could be grasped only as what passes through time. Durch die Zeit hindurch greifen wollen. I'm not going to go into the poem, but the poem, one of the best known poems, he writes after meeting Heidegger in 1967, where he echoes the prophecy of consolation in Jeremiah, echoing Buber. The second stanza that begins this poem is written as a marginalia with a pencil on the margins of Gershom Scholem's article on the feminine face of the Shechina, of God. So that's the origin story of that specific poem and that debate with Heidegger's understanding of time. And finally, to conclude, in Clepsydra, again, Sylvie is saying the following, which I think, again, gives or gave the shape for this project, taking over for his time the prophecy of Jeremiah and the threats of Leviticus, Daniel, of course, the center of Martin Buber is thinking about Jewish studies in 1913, conveys the new idea of power granted to the nation's collective repentance, and then continues. So we see how we have a moment of synchronization and a moment of eschatology here, together, coming together and echoing each other. Establishing a canonical Masoretic text of the Bible aimed at resolving the divergence in solar and lunar dates by the new introduction of the lunisolar calendar, so bringing them together. Traces of the synchronization process can be seen in scripture. And then she quotes, the word that came to Jeremiah concerning all the people of Judea in the fourth year of Jehoiakim, echoing again the prophecy of Jeremiah. Thank you very much. I hope that's throwing a few crumbs and a few provocative ideas here. But I wanted to thank again, use this opportunity to thank again Sylvie and the Ecole des Altitudes for hosting me for what became a whole project that consumed, I think, years of thinking and came to a fruition. Much thanks to that. Thank you very much.
Thank you so much, Nitsan, for this wonderful exercise of interdisciplinarity and internationalization of the Jewish studies. Let me give the floor to Dominique Morel.
Merci pour l'invitation, bien évidemment, à parler pour Sylviane, que comme vous pouvez vous imaginer, à cause de mes cheveux blancs, je connais depuis très longtemps. Et c'est toujours difficile de parler après Nitsan dans les livres. J'ai pas lu le dernier, bien évidemment, et les discussions sont toujours très fascinantes. Je me permets d'ailleurs de parler en français parce que je vous avais demandé si c'était possible. C'est quand même plus facile, surtout à distance, parce que je voulais justement parler des problèmes, de ces problèmes de calendrier. Et j'ai regardé de la manière dont on dit calendrier dans plusieurs langues, et je me suis souvenu d'une polémique qui a duré depuis Moïse Mendelssohn jusqu'en 1933 et même un peu plus tard sur la discussion des dogmes dans le judaïsme. Et vous savez que ça a été extrêmement éloquent, il y a eu beaucoup de livres, d'articles là-dessus, et en réalité... je regardais qu'en anglais, ça se dit calendar, timetable, schedule, et donc à chaque fois, On doit pouvoir trouver quelque chose d'autre. Et je voulais bien évidemment, puisque je vous parle de Jérusalem, ne pas oublier de mentionner qu'on est en train de préparer les commémorations du 100e anniversaire de l'université, de l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem.
Dominique,
en 1925. Et cette inauguration avait été précédée par l'ouverture du centre, enfin ça s'appelait pas comme ça, du département des études juives, qui agitait d'ailleurs des discussions que vous avez eues au début de votre journée, de savoir, puisque dès qu'on a commencé ce centre d'études juives, s'est posée tout de suite la question du centre de recherche sur les civilisations arabes, enfin musulmanes. Et donc d'un coup, on s'est retrouvé, j'allais dire, presque même le jour de l'inauguration, avec deux calendriers différents. Et on sait d'ailleurs que comme Balfour avait été invité et les arabisants qui avaient été convoqués voulaient parler avec une partie arabophone de la ville et ils en ont été pas tout à fait empêchés, mais presque. Et donc en mentionnant ces différents calendriers et ce temps, je pensais effectivement avec les auteurs que Nitzan a convoqués, qui passe effectivement d'un poète à un philosophe, à une politiste, et à un écrivain qui lui joignait d'ailleurs beaucoup de ses domaines, comme Walter Benjamin. Je me demandais si à chaque fois, ces auteurs n'ont pas leur propre définition du temps, de temporalité, pas seulement Nitzan l'a dit, du mot de l'Église, c'est-à-dire ils ont une toute autre expérience, bien évidemment, entre un mandarin qui est déjà installé à Jérusalem depuis 1923 et quelqu'un qui court avec avec les gens qui veulent le détruire, et puis aussi une professeure américaine qui, bien qu'ayant réchappé de justesse, est désormais extrêmement bien installée aux États-Unis. Et je parle de ça parce que vous-même, Nitzan, dans votre introduction, qui vous avez gentiment envoyé, qui est la seule chose pour l'instant que j'ai lue, vous mentionnez ce rapport entre le politique et, j'allais dire, le théologique, l'intellectuel, le philosophique, etc., qui sont que tous ces auteurs sont des gens qui, effectivement, ont été rencontrés par une temporalité qui n'avait pas du tout prévu. Pour l'instant, j'ai fait partie des gens qui, comme vous le savez, ont écrit des biographies, et les gens se demandent toujours, il y avait à l'époque une grande discussion, et plutôt anti-biographique d'ailleurs, comme s'il y avait une téléologie implicite. Comment peut-on parler de téléologie implicite à une génération qui a rencontré la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la naissance de l'État d'Israël et leur propre destinée? Vraiment, j'essaie parfois, c'est la mode est à la contre-histoire, de m'imaginer ce qu'auraient fait ces gens-là s'il n'y avait pas eu, ne serait-ce que ces guerres. On aurait eu affaire, en tout cas dans trois ou quatre de ces auteurs, à des mandarins sympathiques, des érudits, des profs dans leur bibliothèque, qui nous auraient fait un haut de lit, probablement parfois somptueusement embêtant, comme notre ami Maurice Kriegel a l'humour de lire. Mais donc ils ont rencontré, et quand ils rencontrent cette histoire, ce qui est une banalité, ils rencontrent une autre conception du temps à chaque fois. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Surtout, on est beaucoup de personnes dans cette salle à avoir justement l'expérience d'avoir enseigné dans une autre langue ou d'avoir lu ou écrit dans une autre langue. Et on voit bien que le narratif, comme on dit aujourd'hui, ne peut pas être le même. Et que vous avez des corrections. Les gens, le language editor de votre édition américaine ou allemande vous pose des questions pour savoir comment on va régler ce problème de diffraction, non seulement de diffraction du vocabulaire, mais de diffraction aussi du temps. Et c'est pour ça que mon interprétation, par exemple, pour prendre juste un point du Dachsfischen, c'est-à-dire de ce qui est entre le je et le tu, pas seulement le nous, pas seulement le wir, pas seulement le cela, mais ce qui se passe quand on regarde et quand on parle avec l'autre. Vous reconnaîtrez bien évidemment sans difficulté l'auditeur, pour ne pas dire l'élève de Lévinas. Et je me demandais si cette percolaboration du temps, ce Dachsfischen, n'était pas justement quelque chose anti-narrative, contre la narration. Et peut-être que même Les travaux de Scholem sur la Kabbale ont aussi été une sorte de refus du narratif classique du Moyen Âge, le monde moderne, la période actuelle, etc., puisqu'il raconte toujours que une des personnes qui ont signé une recommandation pour lui, c'est très embêtant parce que les gens ne savaient pas à qui la demander, puisque personne ne comprenait rien à ce qu'il écrivait, a été celui qui a écrit sur les fleurs, Flora der Juden, le Hongrois, le professeur Löw, et Wilke est un de ceux qui le connaît le mieux, qui a dit, moi je ne comprends rien à ce qu'écrit M. Scholem, mais les quatre pages sur le panier de Déborah, et sur ce qu'il dit du temps des fleurs, du temps de la nature, ça c'est formidable. Et alors les gens se sont dit, Julius Gutmann et les autres se sont dit, bon ben, puisqu'on nous dit quelque chose de positif comme ça, c'est quelqu'un qu'on doit reconnaître. Et alors malheureusement, j'osais pas vous le dire, surtout que maintenant avec la télévision, enfin pas avec la télévision, mais avec les choses retransmises et enregistrées, il y a des métaphores qui sont difficiles à utiliser. Surtout quand on parle de Jérusalem, surtout en ce moment d'ailleurs, et hier, avant-hier, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, et heureusement, c'est pas mon rôle de l'indiquer aujourd'hui, c'est que le judaïsme, et surtout le judaïsme allemand, c'est une bombe à fragmentation. C'est-à-dire, ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est si intéressant. Et c'est pour ça que quand on a une école comme l'école pratique de hautes études, et l'école de hautes études en sciences sociales, excusez-moi, mais je viens aussi de l'ancien régime, c'est pour ça que tout le monde trouve quand même quelque chose. Parce que c'est ça la question, et je vais terminer, c'est ça la question qu'on a eue, par exemple, à Berlin, avec la discussion désagréable, d'ailleurs, entre Peter Schaeffer et Taubes, c'est en disant, qu'est-ce que c'est que cette bombe à fragmentation? Quand vous faites un livre sur Derrida, est-ce que vous faites un livre sur les études juives? Et si vous-même, vous êtes juif, et vous faites un livre sur autre chose, est-ce que c'est les études juives? Donc, c'est des questions qu'on se pose maintenant de plus en plus, et heureusement, quand j'étais jeune étudiant, dans ces murs, justement, puisque je dois beaucoup à Furet et à Revet, d'ailleurs, qui ont été complices dans mon entrée au CNRS, c'est aussi probablement un avantage des maisons comme celle-là. Et alors, j'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, et vraiment, je vous promets, je conclue, dans le zonage Schweig, donc dans la Festschrift, dans le recueil d'hommages au philosophe israélien qui vient de disparaître, s'appelle Schweig, il y a un article formidable d'Anna Kacher qui dit que pour lui, l'histoire du judaïsme, notamment l'histoire des sciences humaines, en tout cas de la philosophie et de l'histoire juive, elle a trois totems, trois tabous. Le premier, c'est le centaure. On ne sait pas très bien si c'est un homme, une femme, ou un cheval, ou un animal. Le deuxième, c'est un dinosaure. Alors lui, c'est quelque chose aussi de très ancien et d'énorme. Et il pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être du genre du phénix. Et donc, c'est au moment où on est, on l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'au moment où on est dans plusieurs crises, moi, j'ai toujours pensé, et c'est ça qui m'intéressait, que le judaïsme, c'était une crise. Par rapport à quelqu'un qui vient du monde chrétien, de l'éducation chrétienne, où c'est quand même d'une linéarité parfois consternante, dans le judaïsme, j'allais dire, ça explose quasiment en permanence, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et bien évidemment, quelqu'un qui s'est occupé du temps et de la clepsie, etc., c'est bien de quoi il s'agit. D'habitude, on se parle dans une autre langue avec Nixon, c'est pour ça que j'étais content d'utiliser quand même la mienne.
Oui, merci. Merci beaucoup, Dominique, à la fois pour vos commentaires et pour avoir tenu le temps, plus ou moins. Je vais maintenant laisser la parole tout de suite à Perrine Simon-Naoum pour la suite de la discussion.
Merci beaucoup. Moi, je ne remercie pas Dominique parce que je pensais que tu serais comme d'habitude et que donc je n'aurais même pas à parler étant donné qu'il est déjà l'heure d'aller déjeuner. Mais je vais quand même essayer de faire vite. Alors, néanmoins, je rajoute une tonalité un peu personnelle, c'est que ma présence ici est très paradoxale parce que c'est grâce à Sylviane que je n'ai pas fait d'études juives. Dans la mesure où Furet m'a dit vous faites des études juives, oui, mais c'est embêtant parce que c'est Sylviane Goldberg qui aura le poste. Alors allez faire autre chose. Donc j'ai été faire de la philologie avec Jean Bollack. Voilà. Relisant donc les ouvrages de Sylviane, Nitzan vient de nous montrer comment l'appréhension du temps fixe les traits d'une époque. Et ça lui a permis d'établir, même s'il nous l'a dit très rapidement, une constellation avec des penseurs qui, sans appartenir au même courant philosophique ou politique, travaillent à partir de la pluralité des temps, qu'ils empruntent donc à la relation que le judaïsme a avec le monde. Et je crois qu'on peut rapprocher ces analyses de celles de l'historien Reinhard Koselleck, qui, en bon disciple de Heidegger, érige en fait notre conception du temps comme un quasi-transcendantal. C'est-à-dire qu'il montre, en effet, vous vous souvenez, dans un article d'ailleurs consacré au syntagme de la Révolution, comment appliquer à l'histoire le temps construit notre rapport au monde à travers une double relation qui met en rapport horizon d'expérience et horizon d'attente. Cette mise en regard rend compte, je crois, de la spécificité de la vision historique inscrite au sein du judaïsme et que l'historiographie générale a parfois échoué à saisir. Elle renvoie, moi, me semble-t-il, à une multidimensionnalité de cette histoire, à une pluralité de lectures, qu'à la superposition de différents niveaux d'interprétation qui eux-mêmes renvoient à ce que moi j'appellerais une construction d'une politique du temps. Or, c'est la prise en compte de celle-ci qui éclaire, me semble-t-il, l'évolution qu'ont connue les études juives depuis maintenant plusieurs décennies, notamment en France, et le rôle qu'elles jouent aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, j'aurai une double proposition à vous offrir, mais je le ferai très très rapidement. D'une part, le fait que la superposition des niveaux d'interprétation subsume, en fait, la pluralité des temps, et d'autre part, l'urgence à entretenir les études juives. Alors, lorsqu'on évoque la modernité concernant les Juifs, on ne peut pas évidemment ne pas partir de la Révolution française. Or, il me semble que celle-ci rend précisément compte non seulement de la pluralité des temps, temps sacré, temps profane, même plusieurs temps sacrés, mais plus encore du travail d'interprétation qui accompagne cette pluralité. Dans la conscience historique juive, vous le savez, deux conceptions du temps se succèdent et s'opposent depuis l'Antiquité pour définir, on l'a vu, l'unicité du destin juif. Une première forme messianique voit le jour un siècle après la fin de la première révolte des Juifs contre Rome. Les sectes se multiplient et elles rejettent en fait l'interprétation prophétique de l'histoire et on voit une pensée apocalyptique installer en fait l'espoir en la venue d'un Messie. Cette venue d'un Messie, elle est comprise comme le pur effet d'une décision divine sans qu'aucun événement n'en annonce l'imminence. Et dans ce schéma, donc, la révolution qui s'accomplit donne naissance à un monde nouveau où rien ne subsiste de l'ordre ancien. Cette pensée, en fait, vient condenser le cours de l'histoire en un processus unique, orienté vers un seul objectif, préparer la fin des temps. Mais très vite, évidemment, les sages se sont rendus compte des dangers potentiels de cette attente messianique. Ils ont entrepris de la combattre et ils ont en quelque sorte édifié une version concurrente de l'histoire dont les textes du canon portent la marque. Ils ont introduit une distinction entre ce qu'ils appelaient les temps messianiques et les temps à venir. Et ils ont enjoint au peuple juif de se plier à la loi des nations sans chercher finalement à hâter la fin de leur règne. C'est un esprit apocalyptique dont on ne saurait trop surestimer l'importance, comme le rappelait Amos Funkenstein, non seulement parce qu'il fournit le cadre dont est issu le christianisme, mais bien parce qu'il enracine en fait dans le judaïsme ce que Funkenstein montre être les prémices de l'esprit historique dans la manière dont il annonce la fin des temps à travers une forme préalablement définie et surtout parce qu'il constitue le socle donc à partir duquel va développer une approche eschatologique de l'histoire qui se substitue à lui. Alors, je passe très vite, quel rapport avec la Révolution française? Eh bien, précisément, la Révolution française repose sur ce que j'ai appelé une double hélice du temps, dans la mesure où, aux yeux du judaïsme français, elle accomplit une double promesse qui est apocalyptique et eschatologique à la fois. En adoptant la thèse des révolutionnaires, c'est-à-dire en considérant la Révolution française comme un événement inouï, au sens premier du terme, les Juifs renouent avec l'ancien mode de pensée apocalyptique. En ceci que le citoyen, pourvu de droits inaliénables, ne devrait rien à l'ancien sujet de la royauté déchue. En quelque sorte, il s'auto-institue par sa volonté toute puissante. Mais ce cas apocalyptique, il doit aussi composer avec une vision eschatologique de l'histoire, et la Révolution française elle-même aussi en permanence entre l'affirmation de son auto-institution et en réalité l'impossibilité de se libérer entièrement du passé pour bâtir un nouveau régime de représentation. C'est cette impureté dont a parlé Mona Ozouf. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc le judaïsme français, tout au long du XIXe siècle, j'ai essayé de le montrer à travers l'étude de la science du judaïsme français, finalement va être tiraillé entre ces deux conceptions du temps et va devoir travailler en relisant en fait la rencontre de la tradition et de la modernité. Donc, j'ai pas le temps là de m'y arrêter, mais ce qui me paraît très intéressant, c'est que c'est également selon ce schéma, me semble-t-il, qu'on peut interpréter à la fin du XIXe siècle la lecture que les intellectuels juifs font de l'affaire Dreyfus. On a un combat de Dreyfusard mené au nom des valeurs de vérité et de justice, qui renvoie à une interprétation apocalyptique de l'événement, qu'assumeront quelqu'un comme Bernard Lazare ou comme Peggy, tandis que l'engagement des intellectuels juifs, lui, sera souvent compris sous une forme eschatologique. Et je dirais qu'on comprend dans ce contexte l'importance que prend le passage de la gauche dans le camp de Dreyfusard, sous la conduite de Jaurès, qui est d'autant plus significatif qu'il tourne le dos à l'antisémitisme, mais qu'il place aussi la promesse de la révolution sociale sous le signe d'une justice universelle. Alors cette actualité que connaît aujourd'hui l'affaire Dreyfus me permet de passer au second point de ma réflexion, qui sera également très rapide. Je dirais, c'est cette construction d'une pluralité des temps, mais aussi la superposition des interprétations qu'elle suppose dans un jeu de miroir toujours recommencé entre tradition et modernité, qui témoigne, à mon sens, du rôle, je dirais même presque du rôle politique que peuvent assumer aujourd'hui les études juives. Mon sentiment, c'est en effet que nous assistons actuellement à la fin de l'ère ouverte en France par l'affaire Dreyfus. Il est très frappant de constater qu'à la suite de l'affaire, d'ailleurs, les études juives, qui s'étaient maintenues tout au long du XIXe siècle, vont se trouver en quelque sorte en France marginalisées. Et nous sommes aussi les héritiers de cette marginalisation. Marginalisées, pourquoi ? Parce que les intellectuels juifs vont en quelque sorte superposer l'engagement républicain en faveur de Dreyfus, et la défense du judaïsme. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais je crois que ça nous conduit à nous interroger sur le moment que nous vivons. C'est-à-dire, c'est vrai, les études juives vivent aujourd'hui dans plusieurs lieux universitaires. Elles ont été institutionnalisées, on l'a dit, à l'EHESS par François Furet dans les années 1980, dans un moment où le basculement du monde semblait aller dans le sens d'un renforcement de la démocratie, même s'il faut reconnaître à François Furet qu'il eut toujours conscience de la fragilité des démocraties. Je crois que malheureusement, nous n'en sommes plus là aujourd'hui, et que la parenthèse ouverte par l'affaire Dreyfus se referme. Ce qui éclaire d'ailleurs, à mon sens, encore une fois, la célébration dont celle-ci est aujourd'hui l'objet. Ce sont désormais les attaques qui mettent à mal la démocratie qui entraînent avec elles les juifs. Et là, on a en quelque sorte une inversion du schéma. Comment comprendre autrement, par exemple, le fait que l'antisémitisme identitaire soit le seul point commun aujourd'hui entre les pensées qui critiquent le capitalisme, le patriarcat, les pensées identitaires, les pensées décoloniales? Alors, on peut se dire que je m'éloigne là d'une pensée sur le temps. Je ne crois pas du tout. Je crois que, en fait, ce que permettent de maintenir les études juives, c'est une approche réflexive dont la pluralité dépasse, en réalité, la seule dimension temporelle. Et je pourrais en faire la démonstration, j'ai pas le temps de le faire, mais en montrant, par exemple, le malentendu qui réside dans la manière dont les collapsologues, en particulier les collapsologues français, se revendiquent de la pensée de Hans Jonas et de la prophétie du malheur, dont ils croient qu'elle doit se réaliser, alors que, au contraire, le livre de Jonas, la pensée de Jonas, dans le cadre de la prophétie hébraïque, mais aussi des études gnostiques, c'est précisément de démentir cette prophétie de malheur. Les études juives nous permettent, je crois, d'éclairer à la lumière des textes, mais aussi de l'histoire, que le temps n'opère jamais de façon linéaire et encore moins univoque. Et à mon sens, il y a là, j'ai pas le temps de développer, mais un outil politique qu'il est très important que nous emparions aujourd'hui, c'est-à-dire que nous suivions le chemin ouvert par François Furet, le chemin ouvert par Sylviane, c'est-à-dire croiser les disciplines, construire une anthropologie philosophique qui mette l'homme en son centre et qui montre comment, lorsqu'il s'interroge sur son passé et sur son présent, c'est dans le projet d'habiter de façon la plus humaniste possible son propre temps. Merci.
Merci beaucoup, Perrine, pour cet exercice aussi de rapidité.